Grève et puis ce sera la dernière parce que celle-là on va la gagner.
Ouais, faut arrêter de se faire exploiter la foule.
Des gens ont fait, ont donné de leur sueur, donné de leur santé ou même souvent de leur vie pour faire faire des bénéfices à une entreprise. Et que quand vous avez des actionnaires qui prennent cet argent, qui se le mettent dans les fous, vous comprenez? On est dans un système pourri.
Ce que le gouvernement est en train de faire, c'est une catastrophe sans nom. On est en train d'écraser la liberté d'expression, on est en train d'écraser les droits, les libertés des salariés. Et tout ça, ça cache en réalité la casse du code du travail qui arrive avec Macron. Et tout ça sous couvert de l'ultralibéralisme et du travail pour tous. Je pense qu'à un moment donné, il va forcément se passer quelque chose parce que les gens vont pas pouvoir continuer à s'écraser.
Qu'est-ce que tu fais?
La révolution!
Démobilisation générale, 8e exercice préliminaire. Aujourd'hui, à l'heure dite, on s'arrête, on se parle. Comment tu l'as su, toi?
J'ai entendu au poste.
Bah oui, moi j'ai toujours entendu annoncer les exercices préliminaires à la radio.
Alors, les types de la radio sont avec nous?
C'est pas qu'ils sont avec nous, c'est qu'on est partout.
Quelle info?
Moi, je trouve qu'il y en a un petit peu marre des préliminaires. Bah allons-y, arrêtons tout pour demain.
C'est la nuit, dans l'île, les 11h, mal au cœur, déjeuner, mon café. Trop c'est trop, les midis, les parents sont rentrés en criant. Faut manger après travailler. Ouais, les 2 heures, je suis chômeur, je suis pointé.
Bonsoir. Vous êtes bien sur Radio Canu, la plus rebelle des radios. C'est le Canu Info du lundi en petit comité.
Ouais, un Canu restreint.
Un Canu restreint et sous couvre-feu, mais quand même là. Alors, on va commencer à l'international. 2 sujets. Un premier sujet sur la caravane de 9000 migrants et migrantes honduriens, honduriennes, bloqués à la frontière guatémaltèque ce week-end. Et ensuite, on parlera des émeutes en Belgique suite à la mort d'Ibrahima.
Et puis on passera au national avec 3 sujets cette fois-ci. Un premier sur la relance des mobilisations contre la loi sécurité globale. Un autre sujet qui parlera cette fois-ci du préfet Lallemand et de 5 autres magistrats qui sont visés par une enquête. Et on finira toujours au national avec 1 sujet sur la question des sanctions policières dans l'affaire Théo.
Et au local, 2 sujets. Un premier sur la grève qui a eu lieu à la raffinerie de Fezin la semaine dernière en solidarité avec les grévistes de Grandpuy. Et on continuera avec l'évacuation musclée d'un squat rue Faïs à Villeurbanne. On vous en avait parlé la semaine dernière, c'était quasiment en direct. Et là, on a un peu plus d'infos dessus et on finira par le traditionnel agenda, évidemment.
Mais peut-être pour commencer, non pas par des brèves cette semaine, mais tout de suite par...
International.
Alors, et tout de suite à l'international, on commence par donc ce sujet sur ces 9000 migrants et migrantes venus du Honduras. Vendredi, donc, plus de 9000 d'entre eux et elles ont tenté de passer la frontière du Guatemala. Ce groupe est appelé Caravane de migrants. Leur objectif, tout simplement, atteindre les États-Unis. Ce vendredi, toujours, la police guatémaltèque n'était que faiblement armée et un certain nombre des Honduriens et Honduriennes ont réussi à passer, quelques milliers, s'éparpillant par groupe de plusieurs centaines, par groupe de 1000 ou 1500. Depuis, un millier d'entre eux et elles ont déjà été rattrapés par la police guatémaltèque et renvoyés par bus de force au Honduras. Samedi soir, dans la nuit de samedi à dimanche, ils étaient 6000 à s'être retrouvés dans un village du département de Chiquimala. Mais ce coup-ci, les flics et les militaires qui étaient présents étaient armés, beaucoup armés et équipés de matériel anti-émeute et ils ont évidemment violemment réprimé la caravane de migrants et de migrantes. Lacrymogènes, grenades, coups de matraque, etc. ont fini par faire reculer des milliers de personnes dont de très nombreuses ont été blessées et ou ont perdu leurs affaires, le peu d'affaires qu'ils avaient emportées avec eux et elles. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au départ, le gouvernement guatémaltèque n'était pas complètement défavorable au passage de cette caravane. Ils exigeaient juste, entre guillemets, un test de Covid PCR négatif. Mais c'était sans compter sur la pression immédiate des États-Unis qui force les pays de la région, notamment d'Amérique centrale, à endosser des politiques migratoires restrictives, exactement comme le fait l'Europe avec les pays du Maghreb et de la Turquie, à grands coups de subventions. Même si le départ de Trump est dans deux jours, ce sera le 20 janvier, le Guatemala, comme le Mexique, érige d'ores et déjà des murs de militaires et de policiers pour empêcher cette caravane de passer. Sachant que Trump a d'ores et déjà également décrété l'état d'urgence sur la frontière avec le Mexique. Et faisons une profonde confiance aux démocrates menés par Joe Biden pour tenir la ligne et mener les mêmes politiques. Il est important de préciser la situation actuelle du Honduras qui explique cette volonté de migrer massivement. Petit pays d'Amérique centrale composé de 9,3 millions d'habitants. Officiellement, c'est une démocratie parlementaire avec une élection tous les 4 ans. À sa tête, il y a aujourd'hui Juan Orlando Hernández depuis 2014. Alors, c'est un gouvernement ultra corrompu, très autoritaire, qui n'hésite pas à s'en prendre aux militants des droits de l'homme, aux opposants et opposantes politiques. Depuis 2015, les mouvements de contestation sont très nombreux et réclament la démission d'Hernández, impliqué dans de très nombreux scandales de corruption en lien avec les cartels, puisque la violence au Honduras est endémique et la guerre des cartels y fait rage. La pauvreté y est, elle, ultra majoritaire, 64,3% de la population en 2018, renforcée bien sûr par la crise sanitaire et économique actuelle. Ces dernières années, le Honduras n'a eu de cesse de privatiser et libéraliser les services publics sur injonction du FMI. Il y a donc un néant sur les services publics. Le système de soins a été totalement saigné à blanc par la corruption. Ah oui, et pour boucler la boucle, dans ce petit pays d'Amérique centrale, les États-Unis utilisent de nombreuses bases militaires dans le pays comme plateforme de lancement dans la région. Voilà pourquoi des milliers de personnes veulent fuir la violence et la pauvreté, dont sont encore une fois en grande partie responsables les États-Unis, les institutions internationales renforcées par la violence des cartels eux-mêmes qui corrompent le gouvernement central. En quelques années, c'est au moins la troisième fois que des caravanes de milliers de migrants tentent de fuir ce pays au péril de leur vie. Et ce ne sera a priori malheureusement pas la dernière.
Un autre sujet, pas beaucoup plus joyeux cette fois-ci, en Belgique. Il n'y a pas qu'en France que la police tue. Les flics sévissent en Belgique aussi. Leur dernier meurtre en date est celui d'Ibrahima Barry, un jeune Guinéen de 23 ans, tué samedi dernier à Bruxelles après son interpellation. Et cette fois encore, il ne s'agit pas d'une bavure, encore moins d'un accident, mais bien d'un crime, d'un meurtre policier qui est la conséquence immédiate du racisme institutionnel qui mine nos États européens. Pourquoi Ibrahima a-t-il perdu la vie à l'hôpital Saint-Jean de Bruxelles après son passage au commissariat? La version policière fait état d'un malaise. Ça vous rappelle rien, le malaise? C'est la même version qu'ont sorti les flics à propos du meurtre d'Adama Traoré, décédé en 2016 suite à un plaquage ventral lors de son interpellation à Beaumont-sur-Oise. En réalité, Ibrahima est mort après son interpellation pour avoir osé filmer la police lors d'un contrôle violent qui se déroulait à la gare du Nord de Bruxelles. Il a été tué pour avoir voulu montrer la réalité des violences policières, les contrôles abusifs, l'arbitraire des flics qui exercent leur violence quotidienne envers les Noirs, les Arabes et les étrangers. Alors sachez-le, en Belgique, filmer la police vaut comme condamnation à mort. Mercredi dernier, pour rendre hommage à Ibrahima et réclamer vérité et justice, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées. Après un premier moment de recueillement et de prise de parole, la colère a pris le pas et les personnes présentes ont tenté de déborder le dispositif policier installé pour l'occasion. Un départ d'incendie a été constaté au commissariat Cowen-Brabant. Les canons à eau ont été utilisés et le convoi royal, passant au plein milieu de la zone d'affrontement, a été chahuté. Mais la machine répressive n'a pas tardé à s'enclencher pour briser ce début de révolte et la police a procédé à 112 arrestations administratives, dont 30 mineurs. Ces affrontements ont tout de suite servi de prétexte aux médias pour éluder les raisons réelles de la mort d'Ibrahima, qui fait suite à beaucoup d'autres. En effet, en avril dernier déjà, c'était Adil, 19 ans, qui a été tué dans une course-poursuite avec la police en Belgique. En octobre dernier, c'était au tour de Mehdi, un adolescent de 17 ans, de trouver la mort, renversé par une voiture de flic. Et en juillet, c'était Akra, un jeune de 29 ans, qui mourait après son interpellation à Anvers. Cette liste macabre parle d'elle-même. Les violences policières sont structurelles et elles ont lieu sur fond d'un racisme néocolonial. Et comme veulent le faire croire certains, ce n'est pas une réforme interne à l'institution policière ou bien encore l'amélioration des conditions de recrutement des flics, c'est pas ça qui va transformer la base idéologique de la police, ce bras armé de l'État. Car la police ne sera jamais dans notre camp. Alors, à défaut de l'abolir, au moins, désarmons-la, ni oubli, ni pardon, force et courage à la famille d'Ibrahima. Maintenant, en hommage à Ibrahima, on va écouter un morceau de rap du rappeur 2L qui s'appelle Bavure.
Mai dernier à Bondy, Gabriel, 14 ans, fuit devant la police après avoir tenté de voler un scooter. Il est ensuite interpellé et termine la soirée aux urgences. Bilan, fracture au visage. L'adolescent assure avoir été violenté. Les policiers, eux, affirment qu'il a fait une chute.
Là, on peut plus laisser là. Là, ça va péter dans la ville, bande de bâtards.
Je vais montrer toutes mes capacités. Mais si j'augmente le niveau, je sais que je vais les inquiéter. Madame la juge, elle est méchante, mes potes sont pas acquittés. T'avais pas la monnaie chez toi, du coup ta meuf t'a quitté. Les comptes des faux, éviter les faux potes, faut les éviter. Bourré, je vais niquer ta fête parce que tu m'as pas invité. Voiture allemande, ta soeur elle crie parce qu'elle aime trop la vitesse. Y'en a qui veulent pas la quitter, ils aiment trop la vie de tête. Je vais prendre ton sac comme Omar, tu ne joues de la couleur d'Omer. J'en revolera ta Audemars si tu l'exposes trop sur le corner. On n'aime pas trop les mythos, finissons Diego Milito. La police, on les aime pas trop, nique la grand-mère à leur patron.
Faut plus les laisser faire, t'es pas sûr. Dans quel monde on vit, pour ta couleur on te tue. On peut plus les laisser faire, on peut plus les laisser faire.
Policière, ça va péter dans la ville. Tout le temps ils nous contrôlent sans nous donner d'alibi. Je crois bien que j'ai la couleur de peau qui dérange. Je crois bien que j'ai la couleur de peau qui dérange. Trop de bavures policières, ça va péter dans la ville. Tout le temps ils nous contrôlent sans nous donner d'alibi. Je crois bien que j'ai la couleur de peau qui dérange. Je crois bien que j'ai la couleur de peau qui dérange.
Buteur à la fois, polyvalent sur terrain, je suis caille averse. Avant la tempête, souvent y'a l'inverse. Les condés sont méchants, la télé dit l'inverse. Les condés sont méchants, la télé dit l'inverse. Les comptes sont méchants, la télé dit l'inverse. Pourquoi? Je sais pas, faudrait leur demander. Dans tous les cas, ils vont pas donner de réponse. On est des vendeurs, à part ça, y'a rien de méchant. Dans le fond, c'est pas ça qui les dérange. Je nique ta mère, ça me démange. Y'a qui m'appelle, il veut respirer de meuf. Ta copine m'énerve un peu comme le dimanche. Ta copine m'énerve un peu comme le dimanche, bâtard. On me dit souvent, Bozelle, t'as du talent. Si tu te mets à fond pour toi, ça pourrait marcher. Chacun son tour, faut pas faire le pressé. Tout le monde rêve de percer, tout le monde veut rouler en merci.
Faut plus les laisser faire, t'es pas sûr. Dans quel monde on vit, pour ta couleur, on te tue. On peut plus les laisser faire, on peut plus les laisser faire.
Trop de bavures policières, ça va péter dans la ville. Tout le temps ils nous contrôlent, sans nous donner d'alibi. Je crois bien que j'ai la couleur de peau qui dérange. Je crois bien que j'ai la couleur de peau qui dérange. Trop de bavures policières, ça va péter dans la ville. Tout le temps ils nous contrôlent, sans nous donner d'alibi. Je crois bien que j'ai la couleur de peau qui dérange. Je crois bien que j'ai la couleur de peau qui dérange.
Vous êtes toujours sur Radio Canu, c'est le Canu Info du 18 janvier 2021 et vous venez d'écouter 2L, le morceau Bavure. Et on enchaîne tout de suite au National avec un sujet sur la loi sécurité globale et les mobilisations de ce week-end.
On reste sur le sujet de la police avec un retour des mobilisations contre la loi sécurité globale, mobilisation qui reprend donc en France avec plus de 80 rassemblements qui ont eu lieu samedi dernier à travers le pays. votée en première lecture à l'Assemblée nationale en novembre dernier. On rappelle que la loi sécurité globale prévoit un paquet de mesures répressives et sécuritaires qui marquent un pas de plus franchi dans l'autoritarisme d'État. Elle prévoit notamment l'interdiction de filmer la police, c'est l'article le plus contesté, mais aussi, ne l'oublions pas, la surveillance par drone, par caméra piéton, ainsi qu'un nouveau schéma national du maintien de l'ordre. Et même si le nombre de participants et de participantes était inférieur à novembre dernier, il est loin d'être négligeable avec 4000 manifestants à Paris, 5000 à Bordeaux, 3000 à Nantes, 2000 à Lille, 1500 à Montpellier, 1500 à Lyon et j'en passe. Pour l'occasion, des teffeurs se sont invités à la fête et ont rejoint les cortèges pour dénoncer la répression qui vise en particulier les organisateurs de la rave party du Nouvel An à Lyon, dont plusieurs risquent des peines assez lourdes et sont sous le coup d'un contrôle judiciaire. Les systèmes sont donc montés sur des camions, ont scandé les défilés et aussi les affrontements à Bordeaux, à Nantes, à Rennes, à Angers et à Lyon notamment. Ils ont été interdits d'accès par contre et saisis à Paris. Des milliers d'euros partis en l'air. Si la participation des teufeurs a permis d'installer une ambiance festive et dansante qui est venue quand même casser la morosité quotidienne, il ne faudrait pas que cette participation éclipse la présence et le combat des familles mobilisées depuis des années pour réclamer vérité et justice. Familles qui sont encore trop marginalisées au sein de cette mobilisation. La répression, elle aussi, était au rendez-vous dans certaines villes avec gazage massif et en règle et de nombreuses interpellations. À Paris, c'est la technique de la manifestation en cage qui a été reconduite par la préf, c'est-à-dire une manif encadrée de part et d'autre par les flics tout au long du défilé. Bref, la neige n'aura pas entamé la détermination des manifestants et des manifestantes et la mobilisation pourrait bien repartir de plus belle avant que la loi n'arrive au Sénat en mars.
Et on continue donc au national avec un sujet sur Didier Lallemand notamment. Vous voyez qui c'est Didier Lallemand, le petit préfet de Paris, tout gentil, là, tout mignon. Et plusieurs hauts magistrats, notamment à Paris, hein, visés par une enquête pour faux témoignage. Alors, qui sont mis en cause ? Donc le préfet de police Didier Lallemand, je vous l'ai dit. Le président de la cour d'appel Jean-Michel Hayat. La procureure, cour d'appel de Paris, hein, la procureure générale de Paris Catherine Champrenault. Le procureur de Paris Rémi Hetz et l'ancienne procureure du parquet national financier Éliane Houlette, qui sont donc tous visés par une enquête pour faux témoignage dans le cadre d'audition à l'Assemblée nationale. Mais dis donc, c'est quand même des gens vachement placés dans la hiérarchie policière et judiciaire. Alors, d'où commence tout ça ? Tout commence en septembre 2020, lorsque le député de la France Insoumise, Hugo Bernalicis, accuse 7 hauts responsables de faux témoignages et parjure devant l'Assemblée nationale, dans le cadre d'auditions au cours d'une commission d'enquête sur l'indépendance de la justice. Les affaires sont certes différentes, mais elles sont instruites dans un seul et même dossier. Tout ça étant pénalement répréhensible de 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende quand même. Même si, rassurez-vous, puisque vous êtes inquiet pour ces personnes, ça devrait bien se passer quand même pour cette jolie bande. Merci à la justice de classe et aux collègues des mis en cause. Hein. Alors, la première et la plus récolote, je vous en raconte seulement deux, c'est celle de Didier Lallemand. En juin 2020, le très puissant préfet de police et soutenu par le ministère de l'Intérieur de Paris donc a osé déclarer devant la commission parlementaire qu'il n'avait pas trouvé les organisateurs des manifestations de policiers ayant eu lieu en juin 2020. Et ce alors même qu'elles étaient appelées par des syndicats de police qui les avaient donc déposées en préfecture. Vraiment, c'est quand même un sacré comique, ce Didier Lallemand. Alors, l'autre qui est vraiment rigolote hein, également, c'est celle de Rémi Hetz, alors procureur de Paris à l'époque, qui affirme n'avoir jamais, mais non, au grand jamais, signé un document donnant des instructions à ses collègues juges sur les attitudes à avoir durant les procès des Gilets jaunes. C'est vraiment trop drôle quand on sait que, du coup, une note interne de sa main a été retrouvée stipulant des sanctions plus importantes qu'à l'accoutumée. Voilà, je vous passe les autres qui sont moins intéressantes puisqu'elles concernent l'affaire Fillon. Vous pourrez les trouver sur Internet si vous voulez. Mais quand même, ça met gentiment en lumière les agissements de ces personnes qui ont beaucoup, beaucoup de pouvoir.
Et toujours dans la continuité des violences policières non sanctionnées, Donc ce n'est pas une nouveauté, l'État couvre toujours les violences policières, comme le montre le rendu du conseil de discipline qui requiert un simple blâme, vous avez bien entendu un blâme, contre deux des quatre policiers poursuivis dans l'affaire Théo. Ce jugement du conseil de discipline est ridicule, il est même obscène, puisque les mêmes policiers sont renvoyés aux assises. Pour rappel, Théo, c'est ce jeune tabassé et violé par la police en 2017 alors qu'il avait 22 ans et tentait de s'interposer à une intervention policière violente à Aulnay-sous-Bois dans la cité des 3000. Cela fait maintenant près de 4 ans que Théo et sa famille mènent une bataille judiciaire contre les 4 policiers impliqués. À ce jour, l'un d'entre eux a obtenu un non-lieu tandis que les 3 autres sont finalement poursuivis devant les assises, donc pour violence volontaire. Mais non. Cela ne suffit pas pour que la fonction publique réagisse. Aux yeux de l'État, le viol d'un jeune homme par la police vaut un blâme. Un blâme, c'est-à-dire la sanction quasiment minimale, quasiment la plus faible que l'on puisse accorder à un fonctionnaire. Et, rassurez-vous, elle disparaît au bout de 3 ans en cas de non-récidive. C'est une honte, voire une provocation. Alors, on vous le dit, tant qu'il n'y aura pas de justice, il n'y aura pas de paix. On écoute maintenant... Avant de passer au local, un morceau du rappeur Dizis La Peste, le morceau Grande Colère.
Les impôts, les huissiers, tous vos confrères.
J'suis en grande colère.
Les contrôleurs qui se cachent dans le RER.
J'suis en grande colère.
Des prix en faute, va falloir que tu payes.
J'suis en grande colère.
Les radars placés pour se faire de l'oseille.
J'suis en grande colère.
Les radios, les émissions de merde.
J'suis en grande colère.
Y'a un fou par jour dans les faits divers.
J'suis en grande colère.
Les collègues qui balancent pour une promotion.
J'suis en grande colère.
À la télé, la séquence d'émotion.
J'suis en grande colère.
Je veux juste pouvoir, je veux pas le pouvoir. Y'a pas l'ombre d'un doute qu'on se fait entuber. Je suis Guadeloupe 1, je suis LKP. Je suis contenu, je suis tétrapaque. T'as envie de lâcher le frein, envie de déraper. Y'a 2-3 heures, tu pouvais me raisonner. Mais t'étais là, tu me riais au nez. Maintenant c'est plus moi, c'est la colère qui te parle. Elle est au bout de la ligne, je lui ai dit quitte pas. Toi tu me disais, on t'a pas sonné. Pas maintenant, c'est la colère qui frappe. Toi tu me disais, faut pas exagérer. Pas maintenant, c'est la colère qui gagne.
J'suis en grande colère. J'suis en grande colère. J'suis en grande colère.
êtes toujours sur le Canu Info du lundi 18 janvier et vous venez d'écouter Dizis La Peste avec son morceau Grande Colère. Et on va passer maintenant à notre dernière partie de l'émission, c'est-à-dire au...
Local.
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 Avec un sujet sur une grève à Fezin en solidarité avec la grève de Grandpuy.
Ouais, depuis 15 jours, on vous en a très rapidement parlé la semaine dernière à Grandpuy, dans la raffinerie. Donc les raffineurs sont en grève dure contre le géant pétrolier Total pour la sauvegarde de 700 emplois. Aujourd'hui, ils et elles ont d'ailleurs décidé de durcir la grève en imposant un barrage filtrant bloquant l'accès à tous les travailleurs de jour, Total, sous-traitants et administration. Puisque pour l'instant, la direction ne sait rien, alors que bon, c'est quand même Total. Genre 202 millions d'euros rien que pour le troisième trimestre 2020 de bénéfices. Eh bien, l'année dernière, les salariés de Fezin, de la raffinerie, donc, ont fait une grève de 24 heures avec un taux de grévistes de 90%, appelé notamment par Force Ouvrière, en solidarité avec les grévistes de Grandpuy, pour mettre la pression et tenter de faire effet boule de neige, et ce, alors même qu'ils ne sont pour l'instant pas concernés par des suppressions de postes immédiates. Mais rappelons-nous que l'an dernier, les travailleurs de Fezin ont fait 50 jours de grève contre la fermeture d'une unité de production et la suppression de 7 postes. Pas uniquement contre ça d'ailleurs, les conditions de travail se détériorent, de suppression de poste en suppression de poste, la charge de travail augmente et l'inquiétude d'un PSE massif comme à Grandpuy existe. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il faut au maximum soutenir et relayer la grève exemplaire et déterminée des raffineurs de Grandpuy. Des caisses de grève existent. En voici une, cotisup.com. Vous allez sur n'importe quel moteur de recherche, vous trouvez cotisup.com en solidarité à Grandpuy. D'ailleurs, la semaine prochaine, on vous promet une ITV, une interview d'un représentant de la CGT.
Et on enchaîne sur un sujet qui parle cette fois-ci d'une criminalisation des squatteurs, c'est-à-dire de personnes qui veulent mettre à la rue d'autres personnes, qui veulent au contraire éviter que d'autres personnes soient à la rue pour les héberger. Le lundi 11 janvier à 23h, une vaste opération policière a eu lieu au 25 rue Frédéric Faïs, à Villeurbanne, pour expulser des personnes précaires et sans logement qui avaient investi une maison vide, une maison qui a été vide depuis plusieurs mois. Ils y ont trouvé refuge. Les habitants et les habitantes s'étaient donc installés depuis le mercredi 6 janvier au soir dans cette belle maison promise à la démolition, comme 5 autres de la zone qui se situe entre l'impasse et la rue Frédéric Faïs en face du lycée. Ces maisons, elles appartiennent en réalité au promoteur immobilier Kaufmann & Broad, promoteur qui les a rachetées pour y construire à la place un vaste projet immobilier de 73 logements. Vous imaginez le truc. Eh bien, le lundi 11 janvier à 23h, donc après le couvre-feu, une vaste opération policière a eu lieu pour expulser les personnes précaires et sans logement qui avaient investi la maison vide depuis plusieurs jours pour y trouver refuge. En toute illégalité, les policiers ont procédé à l'expulsion qui a duré plusieurs heures. Les personnes présentes à l'intérieur ne savaient pas ce qui allait leur arriver. Vers 22h, la police a d'abord défoncé le portail à l'aide d'un fourgon, tout simplement. Ensuite, les flics ont forcé la porte principale à l'aide d'un bélier. Ils ont pénétré dans la pièce où 11 personnes se tenaient pacifiquement et ont braqué leurs armes sur elles et eux avant de procéder à des fouilles et à des contrôles d'identité. Pendant ce temps-là, les soutiens qui étaient à l'extérieur ont reçu des amendes, puis ils ont été clairement virés pour pas qu'ils puissent prendre de photos et de vidéos. Et pendant toute l'opération, un agent pointait la fenêtre de la pièce principale où étaient réfugiées les personnes à l'intérieur avec son flashball, de quoi intimider. Pendant ce temps-là, d'autres agents empêchaient de s'approcher les passants et les voisins en les tenant à distance, en les braquant avec une lampe torche ultra puissante qui empêchait donc toute vidéo de qualité. Un peu plus tard, à 22h30, les 11 personnes qui ont été interpellées sont emmenées au commissariat. Elles y ont effectué 18 heures de garde à vue pour dégradation. C'est donc seulement le mardi en fin d'après-midi, la police n'ayant pas pu prouver une quelconque responsabilité des interpellés dans les dégradations, qu'ils et elles ont enfin été libérés avec un simple rappel à la loi allant tout de même de 1 à 6 ans. Cela montre que leur interpellation était complètement inutile et surtout que l'intervention, en plus d'être illégale, était totalement disproportionnée dans ses moyens. La réaction de la police, l'ampleur de l'opération et l'attitude agressive et violente des agents ont servi à laisser des personnes dormir à la rue, sous la pluie, alors qu'il y a de la neige et dans un froid glacial. Le but de cette intervention, elle est claire. Elle sert surtout à intimider toute personne qui tente de réquisitionner des bâtiments vides. D'autant que, on le rappelle, ces 6 baraques qui étaient vides dans la rue Frédéric Feiss, elles appartiennent à Kaufmann & Broad. C'est une entreprise immobilière qui réalise chaque année près de 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Les projets d'ailleurs de Kaufmann & Broad, elles entraînent l'augmentation des prix immobiliers dans les quartiers et participent donc au processus de gentrification qui s'accélère à Villeurbanne et notamment dans le quartier de Cusset, ce qui oblige donc concrètement les plus pauvres à partir de l'autre côté du périph. Bref, cette entreprise Kaufmann & Broad, elle préfère payer pendant de longs mois plusieurs agents de sécurité chargés de surveiller des maisons vides plutôt que ces maisons servent à abriter des gens à la rue. Mais ne vous inquiétez pas, d'autres maisons seront réquisitionnées bientôt.
Ça fait plaisir à entendre. On passe donc maintenant au traditionnel et très classique agenda du lundi soir, puisque il y a cette semaine quand même un paquet de choses. Et d'ailleurs, tout commence dès demain. C'est une journée de mobilisation dans la culture. Le secteur entier de la culture se mobilise à l'échelle nationale. À Lyon, donc, il y a un rendez-vous à 12h30 devant Opéra pour partir ensuite en déambulation, en manifestation, qui se terminera par une assemblée générale à 14h30 au théâtre Odéon. Les revendications de cette mobilisation sont, entre autres choses pour Lyon en tout cas, prolongation de l'année blanche, retrait de la réforme de l'assurance chômage qui devrait être appliquée en avril, et ça c'est vraiment quelque chose sur lequel il va falloir batailler sévère, des aides massives au secteur, la facilitation de l'entrée des primo-entrants dans le régime de l'intermittence du spectacle et le maintien de tous les droits sociaux, parce que pour celles et ceux qui sont intermittents, c'est pas parce qu'il y a une prolongation de l'année blanche qu'il y a des cotisations, c'est un peu différent, donc c'est aussi pour ça que cette revendication est mise en avant. Et je vous cite la fin du tract qui est signé de l'Assemblée Générale du 7 janvier 2021 des étudiants et des professionnels des arts et de la culture, donc qui spécifie que le gouvernement, plus enclin à offrir des cadeaux aux capitalistes, laisse les plus précaires d'entre nous sans solution. Il multiplie les aides au patronat sans investir dans la santé, l'éducation ou la culture. Nous refusons cette société. Nous sommes solidaires de toutes celles et ceux que cette crise laisse encore sur le carreau. Face à cela, seule la lutte peut nous rendre victorieuses. Donc rendez-vous demain, 12h30 à Opéra et à 14h30 au théâtre Comédie Odéon.
Une autre date qui est à retenir aussi demain, donc mardi 19, c'est le début de la grève des équipes de vie scolaire qui appelle à un rassemblement à 14h au rectorat, donc au 92 rue de Marseille à Lyon dans le 7e. Puis ils appellent aussi à une AG d'organisation à 16h à la Bourse du Travail. Une autre date, cette fois-ci, c'est le jeudi 21 janvier, à l'appel de l'intersyndicale de la région Auvergne-Rhône-Alpes tout entière. Donc cette intersyndicale appelle à une journée de mobilisation, donc le jeudi 21 janvier, pour des conditions de vie étudiante dignes. À Lyon, plus particulièrement, où deux étudiants et étudiantes lyonnaises ont tenté de mettre fin à leur jour, une manifestation partira à 12h de la manufacture des tabacs en direction du rectorat. Et enfin, une dernière date, ça sera le lundi 25 janvier. On vous appelle à venir devant le tribunal de Villeurbanne à 8h30 du matin, rue Pierre Fleury-Papillon, pour venir soutenir le centre social autogéré L'Illégalité. Donc c'est un lieu d'hébergement et d'activité à Cusset qui est menacé d'expulsion par son propriétaire. Son propriétaire, c'est la Fondation Richard, une fondation qui, sous couvert d'action sociale et d'utilité sociale, se comporte comme n'importe quel propriétaire privé et demande même, c'est écrit noir sur blanc, la suspension de la trêve hivernale. Donc venez soutenir L'Illégalité lundi 25 janvier devant le tribunal de Villeurbanne à 8h30.
Voilà, c'est la fin de cette émission un peu courte, mais qui a quand même eu lieu. Et on vous invite donc à nous réécouter et nous rejoindre la semaine prochaine à 19h sur Radio Canu, la plus rebelle des radios.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Rien trouver de plus efficace pour garantir leur propre sécurité. Ah, mais vous pouvez tous aller au diable, parce que
qui ne sont qu'une bande d'habiles fripouilles, et vous qui les servez parce que vous êtes stupides et lâches. Ils nous condamnent, ces crapules, alors qu'en vérité, la seule différence entre nous, c'est qu'ils volent les pauvres sous le couvert de la loi et que nous pillons les riches sous le couvert de notre seul courage. Ne ferais-tu pas mieux de devenir l'un des nôtres plutôt que de lécher le cul de ces ordures pour trouver du travail ?
Mon ami Charlie Chaplin.
Allez les gars, faut faire tourner la turbine. Allez les gars, faut faire lever la machine. Allez les gars, faut faire tourner la turbine. Allez les gars, faut faire lever la machine.
train, du petit train, train. La machine gueule, elle n'attend pas. Rugissante comme une armée de 100 000 félins. Sa ferraille produit à grands pas. Elle ronge notre monde et nous nous affairons à satisfaire son appétit de lion. De ces monstres de métal, je navigue aveugle sous une pluie de limailles. Elles apparaissent et gueules ouvertes à t'offrir leurs entrailles. Elles ignorent le moindre idéal. Des fois tout ce bruit mon tête me martèle. Alors je m'évade dans un lointain archipel.